Vivacité, ma radio complicité. Jusqu'à 14h30 sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite dernière de la semaine. On a envie en effet de vous donner des outils pour grandir encore et encore, comme on vous en donne tous les jours. Hein. Mais aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est vraiment ça. Devenez votre propre coach, point d'exclamation. Et si vous deveniez votre propre coach, point d'interrogation ? Bon, les deux questions sont liées, bien sûr. Est-ce que c'est possible tout d'abord ? Ça, c'est vraiment une autre question à se poser. Avez-vous envie de reprendre votre vie en main ? Alors là, à mon avis, vous allez me dire que oui, bien sûr. C'est quelque chose à laquelle vous aspirez, de sentir que c'est bien vous qui tenez les rênes de votre vie. Vous détenez peut-être certains secrets de réussite et du bien-être à l'intérieur de vous. Ça, on va vous le rappeler. Savez-vous pourquoi votre objectif ne tient pas dans le temps ? Pourquoi même une fois atteint, vous n'êtes pas satisfaite ? Là aussi, on va vous donner des réponses. Comment acquérir les moyens de vous placer au centre de la démarche avec votre réalité de vie en considérant votre subjectivité, la façon dont vous sentez la vie, dont vous percevez la vie et ses difficultés. Bon, on va vous faire en effet vous regarder de l'intérieur aujourd'hui, hein, encore peut-être un petit peu plus que d'habitude. Qu'est-ce que ça veut dire devenir coach de sa propre vie ? Eh ben, c'est la première question que j'ai posée à notre invitée. Elle est coach humaniste globale, elle est formatrice. Marie-Pierre Prudhomme est avec nous cet après-midi.
La vie du bon côté.
Ça va, coach ? Vous êtes coach, moi pas encore. Bon, vous avez une formation quand même de coach. Ça veut dire quoi devenir coach de sa propre vie ? Qu'est-ce que vous mettez vous là derrière ?
J'aime bien ce que vous venez de dire, Sylvie, se regarder
de l'intérieur. Je fais ça tous les jours. Hein.
Eh bien, c'est ça, c'est à la fois se regarder de l'intérieur et de l'extérieur. Et donc, devenir son propre coach, c'est acquérir des outils d'autonomie qui vont permettre de prendre sa vie en main, mais aussi de prendre de la distance par rapport à certains événements, par rapport à certaines transitions. Et surtout, pour moi, avant tout, s'il y a un seul mot qui caractérise ce qu'est devenir son propre coach, c'est à adopter une certaine attitude, la coach attitude. Ouais. Et il y a plusieurs façons d'aller vers et d'adopter une attitude.
Coach attitude.
Et je pense qu'il est davantage important de mettre l'accent sur le fait d'adopter une attitude plutôt que sur le fait de se mettre des objectifs et d'atteindre des objectifs. L'attitude, c'est la seule chose qui, au final, nous appartienne dans la vie.
En fait, vous avez eu cette envie de faire cette émission-là avec moi parce que vous donnez des formations de coaching et vous dites, Sylvie, il y a des personnes qui viennent, ils veulent pas devenir coach. Elles veulent pas coacher d'autres personnes. Elles veulent apprendre à se coacher
elles-mêmes.
Exactement.
Elles-mêmes. Voilà. Donc, ce sont des personnes qui n'ont pas nécessairement envie de s'investir dans une démarche individuelle, mais qui souhaitent s'investir dans un cursus de coaching où elles vont acquérir des outils, justement, avec des techniques particulières qui vont leur permettre de prendre leurs décisions, de faire leurs choix. Et donc, tout au long de la formation, elles vont jouer, autant prendre tout comme un jeu, avec ces outils, s'amuser avec, apprendre à se connaître. Et puis, à l'issue de la formation, eh bien, elles partent avec leur boîte à outils et elles peuvent faire elles-mêmes leur propre coaching en ayant des points de repère et des protocoles à la fois précis et très très faciles d'accès.
Bien, c'est un bel apprentissage. Hein. Et si vous deveniez votre propre coach, alors ce que j'ai envie de dire pour faire venir les auditeurs par témoignage, c'est de leur demander s'ils ont en effet à un moment donné acquis des outils par eux-mêmes ou vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'une formation ou vis-à-vis d'une lecture, ça peut être ça aussi. Est-ce que vous avez eu envie à un moment donné de dire je mets ça en place, je mets ça en pratique et je me coach personnellement, pas pour dire parce que ça sert à rien, on n'est pas dans cette démarche là, c'est simplement de dire qu'à un moment donné vous avez peut-être commencé avec un coach, une autre personne et qui vous a donné satisfaction et surtout peut-être à un moment donné qui vous a dit maintenant je crois que vous êtes assez grand pour partir seul dans votre cheminement, parce qu'on est quand même tous en cheminement.
D'autonomie.
Voilà, c'est ça. L'idée d'autonomie et surtout de ne pas dépendre d'une thérapie. Ouais. Des personnes qui ont besoin de ça pour dire tant que je fais ma thérapie, ça va aller. Mais je ne veux pas arrêter parce qu'après ça n'ira plus. Donc ça, c'est attention à ça. 070 23 33 23, SMS 30 63. Et si vous deveniez votre propre coach, peut-on vraiment se coacher seul ? Vous avez déjà essayé et qu'est-ce que ça a donné? Ça m'inspire, cette chanson d'Amir qui s'intitule « Longtemps » et je vous attends juste après.
La vie du bon côté sur Vivacité.
Avec Marie-Pierre Prudhomme, coach humaniste globale, elle est également formatrice. Nous répondons à différentes questions aujourd'hui, notamment les risques de devenir son propre coach. On les abordera. Quels sont les outils de self-coaching? De coach de moi, oui. Si on parle français. Voilà, coach de moi. Comment se définir les bons objectifs? Quelles sont les étapes pour devenir son propre coach? Quels sont les fondements de votre outil, hein, le coaching humaniste global? D'abord la question. Je veux un oui franc et massif. Peut-on vraiment se coacher seul?
On peut, évidemment, on peut. Avec de bonnes bases. Hein, donc, soit une base formative, soit un début d'accompagnement en coaching.
Voilà, c'est ça aussi. Faut le dire, hein, qu'il y a parfois des déclics qui doivent... Voilà. Les débuts d'accompagnement, c'est important.
Voilà,
aussi,
donc il y a vraiment le début d'accompagnement. Ouais. Hein, parce que commencer soi-même son propre coaching, évidemment, c'est possible, mais il y a quand même certains risques. Mais pour se donner toutes les chances, c'est acquérir les outils et aussi le regard du formateur ou du coach.
Ok. On n'est pas tout seul, quoi.
Voilà.
Dans la nature. On est. Vous avez raison de parler d'accompagnement, parce que j'aime bien ce mot-là. Bonjour Raymond, bienvenue.
Bonjour Sylvie, bonjour Marie-Pierre.
Bonjour.
Ça va?
Ça va très bien, ça va très bien.
Vous mettriez quoi derrière ces mots, être son propre coach, vous?
Ah ben moi je dis que c'est tout à fait possible, pour l'avoir vécu. Seulement, il faut ça commence par de l'humilité et de l'acceptation. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir écouter son entourage et se dire que les autres n'ont pas forcément tort. Ouais. Mais ça se fait, je ne sais pas comment. Voilà, il faut accepter d'écouter d'abord. Mmh. Et de se remettre en question, ça demande beaucoup d'humilité. Et puis ma foi, une fois que la machine est enclenchée, ça roule tout seul, quoi.
Il faut la volonté, quoi, pour continuer.
Oui, hein, oui. Il faut de la volonté pour continuer. Mm-hmm. Mais au plus on continue, au moins il faut de volonté, parce que ça roule. Et alors, il faut se dire aussi qu'on a quand même, on est entouré de d'énormément de coachs. Donc oui, on peut le faire tout seul, mais on a plein de coachs dont on ne se doute pas.
Oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et d'outils qu'on ne se doute, dont on ne se doute pas aussi, hein. Je dis souvent ça, il y a tellement de choses à disposition, Raymond, enfin, parfois ça peut coller à un moment donné de l'existence avec un coach ou des outils, enfin, Marie-Pierre, hein, vous êtes d'accord. Oui. Et puis pas avec d'autres, et il faut pas se sentir coupable, quoi. Donc, encore une fois.
Ouais, il faut pas se sentir coupable, tout à fait, et il faut vraiment. Parfois, le déclic se fait très très longtemps après avoir entendu quelque chose. Oui, on a entendu quelque chose une fois dans une de vos conférences, par exemple. Oui. Peut-être que 3 mois, 6 mois après, je dis, non, de Dieu.
J'aime bien ce que vous dites. L'équipe se fait parfois longtemps après. Même l'équipe avec soi, hein, Raymond.
Ah, ouais, oui, parfois, c'était là, mais on ne le voyait pas.
Oui, c'est vrai. Parfois, on n'est pas prêt à faire équipe avec soi. On a besoin, en effet, d'une autre personne avec un début d'accompagnement. Vous avez raison de dire aussi que il faut une volonté, il faut une humilité. Il faut se dire, Marie-Pierre, qu'à un moment donné, voilà, c'est pas se dire, ça y est, c'est acquis. J'ai compris. Ça y est.
Ça, c'est le maître mot pour moi, c'est humilité. Oui. Et d'ailleurs, hier, en formation ou de coaching, où on revoyait les points relatifs au savoir-être du coach ou du self-coach, le premier point que moi je mets en avant, c'est l'humilité. Mmh. Effectivement, donc là, oui, moi je suis 100% en accord avec Raymond. Cette humilité, elle permet de se mettre dans une posture d'apprentissage permanent et de remise en question permanent, puisque rien n'est jamais acquis. Et donc ce travail sur l'attitude, eh bien, il est vraiment fondamental.
Ouais. Et à partir du moment où on devient son propre coach, ben on devient son arbitre aussi. Donc à un moment donné, il faut savoir se redonner une carte rouge.
Oui.
Il faut savoir se remettre en question. C'est ça aussi, c'est de faire des espèces de bilan.
Tout à fait. Oui. Se donner des rendez-vous avec soi-même. Ouais. Et pour moi, quelque chose qui est très puissant, c'est de passer par l'écrit. Donc on a acquis des techniques, on a acquis des méthodes, et puis on va se mettre rendez-vous avec soi-même, comme si on allait voir son coach, et on va faire le point en suivant vraiment son outil. On peut même parfois changer de place aussi, ou faire ça avec deux fauteuils, ou qu'est-ce que me dirait le coach. Et ce changement postural peut vraiment tout à fait changer. L'état d'esprit. Aussi, se reformuler les choses. Vous dites quelque chose et puis vous changez de place, vous devenez votre coach et il vous reformule ce qu'il vous a dit et il repart avec l'outil. Il y a moyen comme ça de faire un tas de pratiques qui font qu'on arrive à prendre une certaine distance et à c'est devenir bien. À la fois critique, mais dans le sens vraiment bienveillant du terme.
Je vais leur poser la question maintenant. Est-ce que vous prenez parfois rendez-vous avec vous-même? Est-ce que vous mettez une chaise vide, bien sûr, devant vous? Est-ce que vous changez de place pour vous parler? Vous l'avez déjà fait?
Moi, je l'ai déjà fait, bien sûr, parce que mon cabinet s'y prête très très bien, évidemment.
Vous changez de place?
Oui.
Faites un tour autour de la table avant, Olivier.
Et parfois, je retourne à mon bureau quand je veux prendre encore un peu plus de distance.
Prendre une petite tasse de café avant de répondre à ta question. Mais garde-la bien en tête, hein, parce que je vais revenir. Hein. Attention, je vais revenir. Hein, je suis toujours là. Merci Raymond, en tout cas, pour votre message. Bon, ce qu'il va falloir faire dans un instant, c'est vraiment donner des outils. Hein. On va commencer à donner des outils.
Voilà.
Il y a certaines personnes qui disent « Oui, mais on veut des outils. » Et les risques aussi de devenir son propre coach, ça aussi, elle va vous mettre en garde. C'est normal. C'est normal d'être conscient que ça se fait pas non plus facilement, sans problème. Voilà. Qui dit grandir, dit de toute façon difficulté. Hein. Et là, si vous voulez grandir seul, puisque devenir son propre coach, c'est un peu ça, ben... Il faut avoir toutes les cartes en main. Devenir son propre coach. Et on vous demande aujourd'hui à des personnes s'ils ont eu un début d'accompagnement, s'ils ont été accompagnés par une personne, par un coach, par un psy, quelle que soit une personne spécialisée dans le développement personnel, et qu'à un moment donné, cette personne a dit mais je pense que vous avez acquis les outils qu'il vous faut, et maintenant c'est à vous d'en faire quelque chose. Ça vous a fait peur parce que ça vous mettait en zone de confort d'être en thérapie, mais à un moment donné, vous avez dit non, je dois vraiment m'en sortir seule. C'est ça la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui. 30 63, 50 centimes par message envoyé. Robbie Williams sur Vivacité avec cette chanson Les outils pour devenir son propre coach. On parle de ça aujourd'hui. Si vous deveniez votre propre coach, est-ce que vous avez envie de reprendre votre vie en main? Je vois des mains qui se lèvent, bien sûr. Les personnes disent, mais oui, bien sûr, Sylvie, quelle question. Bien sûr, on a envie de reprendre notre vie en main. Eh ben voilà, on va vous donner des outils. Elle est coach humaniste globale, Marie-Pierre Prudhomme. Et c'est surtout par rapport au fait d'avoir des personnes qui viennent suivre sa formation, non pas pour être coach eux-mêmes et pour coacher d'autres personnes, mais c'est pour se coacher personnellement. Donc c'est vraiment une démarche personnelle. Et elle se dit, mais finalement, tout ce que j'apprends, c'est ça aussi. Et donc c'est bien de le dire. Bon, qu'est-ce que vous apprenez? Donc les outils qui font partie
de ce
coaching.
Les outils, donc en coaching humaniste global, ce qu'on travaille avant tout, c'est la subjectivité de la personne. Donc ce qui nous intéresse, c'est ce que la personne ressent et ce qu'elle vit. On ne va pas essayer de chercher à établir une vérité, par exemple, oui, ou à poser un diagnostic, mais simplement savoir ce que la personne ressent. Et donc, c'est à partir de ça qu'on va travailler. Comment elle perçoit la vie, comment elle perçoit ce qui lui arrive, comment elle perçoit un objectif qui lui est cher. Mmh. Et donc, la personne, elle est au centre d'une technique qui s'appelle la méthode POSA. Et donc, c'est un acronyme, POSA, le P de posture, le O de objectif, le S de système et le A de attitude. Alors, on va considérer que la personne est là au centre et on va s'intéresser à chacun de ces quatre points. Donc, la posture, il faut entendre par posture. Quelle est la posture que je prends de moi à moi? C'est-à-dire, qu'est-ce que je me dis de moi? Est-ce que je me dis je peux y arriver? Est-ce que je me dis je suis égal aux autres? Je suis inférieur? Je suis supérieur? Posture aussi par rapport à ce que je me dis des autres et ce que je me dis que les autres se disent de moi.
Ouais, hein, ouh, hein, ouais,
ouais. Parce qu'on peut parfois s'imaginer bien des choses à propos des autres. Et donc, le premier point qu'on va travailler, c'est la posture, entre autres avec des outils comme l'analyse transactionnelle.
Ah oui.
Qui est pour moi un très très chouette outil qui sert à la fois de grille de lecture et de décodage de situations relationnelles, qui est très très simple en ses débuts, mais qui est très complexe et qui peut vraiment être affiné, où on peut faire des analyses très sophistiquées, même en travail pour le bien-être en entreprise. Mmh. Donc en analyse transactionnelle, on va se demander si on interagit plutôt en tant que parent, adulte, ou enfant. Et donc, on va décoder les relations, les transactions entre les personnes à partir de ce modèle-là et travailler aussi, Sylvie, avec quelque chose que vous connaissez bien, c'est ce fameux triangle de Karpman,
oui, oui.
Voilà, qui va aussi être introduit, donc se poser question à propos de la posture. Est-ce que je suis plutôt victime, persécuteur, sauveur, mm-hmm. et à quel point on peut passer, glisser
d'un,
très facilement de
d'un
l'un
état
à l'autre.
Ça, il faut le savoir aussi. On va s'arrêter là parce qu'on a Caroline, Evelyne, qui va témoigner dans quelques instants par rapport à ça. C'est important de prendre la parole parce qu'il y a des personnes qui entendent ce que vous dites là. Mais on va revenir, j'ai noté, hein, on va revenir sur, parce qu'on est que au P de posture
P,
pour
oui.
le moment. C'est
posa.
Posa,
oui.
Posa, voilà. Chaque lettre compte. On y reviendra. C'est Evelyne dans quelques instants qui prend la parole par rapport à ça.
La vie du bon côté.
Marie-Pierre Prudhomme, elle est coach humaniste globale, elle est formatrice, elle essaie vraiment de vous faire prendre conscience qu'en ayant les bons outils et en ayant de l'humilité, merci à Raymond de nous en avoir parlé, et de la volonté,
oui.
on peut peut-être essayer, après un début d'accompagnement, comme ça on fait déjà le résumé et la conclusion, de se prendre en main tout seul, comme l'a fait Evelyne. Et je pense qu'elle est en accord avec ce qui a été dit jusqu'à présent. Bonjour Evelyne.
Oui, bonjour Sylvie, bonjour Marie-Pierre.
Bonjour.
À un moment donné, vous prenez conscience que vous devenez votre propre coach, que vous devez le devenir et ne pas rester en lien avec une thérapie.
C'est ça. En fait, c'est une remarque à ce moment-là qui m'a paru désobligeante. Quand on m'a dit, mais enfin, que fais-tu avec tout ça? Tu lis, tu vas à des conférences. Mais quand est-ce que tu vas mettre ça en route? Et bon, j'étais choquée, évidemment, mais si j'étais choquée, c'est qu'il y avait une bonne raison.
Tout à fait, tout à fait.
Hein, donc, ça voulait dire que, ben voilà, hein, c'était quelque chose qui n'était pas juste chez moi. Et là, j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait une volonté, vraiment une volonté à mettre en place pour être son propre guide. Donc, ce qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est quand je suis partie à la croisière ici avec Claude François qui nous a remis à chacun une petite télécommande.
Eh oui, je l'ai aussi toujours, ma petite télécommande de ma propre vie.
Ben voilà, je suis vraiment responsable de ma vie et maintenant, quand je vais à des conférences, quand je lis, c'est toujours avec un cahier à l'appui et vraiment ce besoin d'ancrage, ce besoin de vraiment me dire, ok, tu es là, mais que vas-tu faire avec ça? Puisque ça me revient toujours à la figure et aux oreilles. Mais vraiment, c'est pour donner du courage aux personnes qui se disent, mais enfin, ça fait autant d'années que je vais chez ma thérapeute et tout, pourquoi je n'en sors pas? Eh bien, je dirais, prenez vraiment votre vie en main et soyez acteur de votre vie.
Oh, voilà. Ils sont bien mes auditeurs, Marie-Pierre. Je vous assure, je n'aurais pas demandé de témoigner. Je ne les ai pas payés pour qu'ils témoignent. Mais c'est vrai qu'en plus, Evelyne, elle est venue en croisière. Donc, je suis encore plus fière du chemin que je vois que ces personnes parcourent. Elle a raison. Ces petites télécommandes attachées à ma clé de voiture, ça, c'est c'est la télécommande de ma vie. Personne ne peut la prendre. C'est la mienne. Donc, ça, c'est vrai que c'est déjà quelque chose d'important. Et tant mieux si Evelyne a perçu la même chose. Mais c'est bien ce qu'elle dit.
Ah, évidemment.
Et en général, c'est vrai quand des personnes nous disent autour de nous, mais enfin, comme moi, avec toutes les émissions que tu fais, tu sais tout sur tout. C'est pas pour ça que je pratique tout non plus. C'est pas facile. Voilà, on est tous humains, donc et c'est bien de le reconnaître,
oui.
Mais de dire à un moment donné, maintenant, là, je m'active et c'est
exactement,
moi qui décide.
Exactement. Et ça, c'est une des clés. C'est le premier petit pas concret. Et ça, c'est devenir son propre coach. Quand on a défini ses objectifs, qu'on a travaillé avec des techniques comme POSA, et maintenant, dans le concret, je fais quoi? Qu'est-ce qui va être vraiment différent? Premier petit pas concret. Donc, se mettre en action, sortir de la procrastination, sortir de, se laisser porter, bien sûr, des conférences, des formations, des lectures. Moi aussi, j'ai besoin de ça et apprendre. Je pense que c'est nécessaire de le faire. Néanmoins, il faut du concret. Si tout ça ne se concrétise pas, à quoi ça rime finalement?
Qu'est-ce qu'on en fait? À un moment donné, c'est bien de se dire, maintenant, c'est le moment. Et encore une fois, parce que je la connais, Evelyne, donc c'est vrai c'est pas parce qu'on n'y arrive pas tout de suite qu'à un moment donné, ce sera pas le meilleur moment.
Là, voilà, on touche à l'attitude.
Ah, c'est, on vient dans le poids dans du le posa. Oui, okay.
Tout à fait.
L'attitude.
Oui.
Au moment où...
Alors, justement, dans l'attitude, un des mots-clés, c'est l'attitude apprentissage. Et l'attitude apprentissage, c'est réaliser qu'il n'y a pas d'échec, mais juste du feedback. Ah. Et donc, j'ai une idée en tête, j'ai envie de faire quelque chose, je me mets en chemin vers et pour, et puis je rencontre une réalité. Et cette réalité n'est pas nécessairement le reflet de mon rêve ou de ce que j'ai imaginé. Mmh. Alors à ce moment-là, eh bien, je peux toujours décider de modifier ma route, de modifier mon objectif. Et donc, pas d'échec, que du feedback. Je rencontre autre chose que ce que j'ai prévu ou ça ne correspond plus à ce que je souhaite. Ouais. Eh bien, je suis libre de changer d'avis et surtout, je prends ce qui se passe comme de l'information. Ce n'est pas de l'échec. Et donc, ici, c'est un gros travail sur l'attitude. Attitude, apprentissage. Tout ce que je vis m'apprend quelque chose et je vais l'utiliser. Bien. Voilà le A. Voilà, on a sauté deux lettres.
C'est bien, j'aime bien le A. J'aime bien le A. On a, oui, on a dit P, posture, A, donc il reste O et S. Rappelez-moi un peu les mots.
Objectif et système.
Et système. Bon, ça va, on a jusqu'à 14h30 hein, pour y arriver. Merci Evelyne, c'est vraiment, ça me fait vraiment du bien d'entendre cela de votre part. Voilà. 070 23 33 23 SMS 3063. On aura Doc Géo bien sûr qui viendra mettre sa petite touche finale dans quelques instants, il prendra part à la conversation. Vivacité. La vie du bon côté. Devenez votre propre coach, c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui. Voilà, juste pour un peu pas déranger, mais accrocher surtout. Et si vous deveniez votre propre coach en posant la question, évidemment les auditeurs disent bah alors elle a plus besoin d'inviter des experts. Mais si, je pense qu'il y a toujours de toute façon un déclic qui doit se faire. Et souvent une personne extérieure est peut-être très très importante et puis avoir les outils, les bons outils, c'est ça. On peut devenir son propre coach quand on a les bons outils et quand surtout on a une bonne connaissance de soi. Enfin, c'est ce dont on a parlé jusqu'à présent. Je vous résume un peu hein, ce qui a été dit, docteur.
Bien sûr, bien sûr. Bonjour Marie-Pierre, bonjour Sylvie. Oui, ben, devenir votre propre coach, c'est quand même c'est intéressant parce que ça donne envie de chanter, vous savez, libéré, délivré. Je ne vais pas chanter, sinon on va perdre pas mal d'auditeurs, évidemment.
Oui, mais on est tous en train de chanter, hein, c'est ça. Une fois qu'on a ces deux mots-là, c'est parti pour toute la journée.
Et en fait, c'est vrai que les techniques pour devenir son propre coach, c'est-à-dire, quelque part, c'est devenir le propre acteur de votre vie.
Oui, c'est ça. Mmh. Ben oui, c'est
et
ça.
Donc,
c'est ça,
ça touche tous les niveaux. Ça touche le sportif, ça touche l'alimentaire. On en a parlé assez cette semaine. Hein, ça touche le professionnel. Mmh. C'est se délivrer des dépendances psychique ou physique, hein, ça c'est sûr. Et donc, et c'est vrai qu'il y a des techniques psychologiques, bien sûr, je dirais psychologiques comme l'hypnose, enfin, ou des techniques de yoga ou de relaxation. Hein, c'est commencer par se faire du bien soi-même, ça donne beaucoup d'éléments. Et c'est vrai que quelque part, c'est ce qui va nous permettre de rester en bonne santé. Et puis, j'ai sorti à ce niveau-là une étude qui m'avait un peu déprimé, c'est que la Belgique était en fait en 8e place des européennes, des années de vie en bonne santé.
Ah bon?
Donc, eh ben, malheureusement, en 4 ans, elle est passée à la 15e place. Ça veut dire qu'actuellement, les Belges perdent 20 000 années de vie en bonne santé par 100 000 habitants. Alors, je ne vais pas vous faire le calcul pour 12 millions,3 parce
qu'on en a le vertige.
À chaque seconde, il y a un habitant en plus, donc le calcul change. Oui. Hein, c'est impossible de calculer. Oui. Mais c'est une étude qui a été faite à la demande de la santé publique, en collaboration avec l'Université de Louvain. C'est quand même assez étonnant qu'on soit passé du 8e de 8e à 15e place. Alors j'ai essayé de me dire, mais pourquoi est-ce qu'on est en moins bonne santé ou qu'on est en bonne santé moins longtemps actuellement? Eh bien, en fait, c'est parce que les autres pays ont mieux progressé que nous. Ça veut dire que il y a probablement trop peu de choses qui ont été prises en compte en Belgique. Hein, les Français, par exemple, les Italiens affichent des meilleurs résultats qu'ils n'avaient avant. Hein, par contre, en Lituanie, c'est la catastrophe. Hein, on perd énormément d'années en bonne santé. Et chez nous, quelles sont les maladies qui donnent cette perte de qualité de vie? Eh bien, la première cause, vous allez être étonnés, c'est en fait les douleurs du dos, les douleurs lombaires. hein, et on perd 1300 années pour 100 000 habitants. c'est des chiffres, ça, c'est toujours marrant de mettre les chiffres comme ça en échelle. Hein. Le tabac, évidemment, le style de vie joue beaucoup parce qu'on perd 2400 années de bonne santé à cause du tabac, 1800 à cause de l'obésité, 1600 à cause de l'alcool. Hein. Donc, finalement, on se rend compte que notre perte d'années de vie en bonne santé, on peut la dominer, la diriger nous-mêmes. Alors, pour le dos, vous coachez vous-même. Ça veut dire que... alors, bien sûr, il y a l'hypnose, il y a le yoga. L'hypnose permet d'interpréter les douleurs et de diminuer les douleurs. Hein, elle ne va pas réparer une arthrose, mais elle permet de mieux se sentir. Hein, il y a le fait de bouger, bien sûr. Il y a le yoga, il y a toute une série de techniques qu'on va appeler parallèles, même si elles ne sont pas parallèles, elles devraient être nommées comme les premières et pas comme les parallèles, mais diminuer les douleurs de dos, c'est une chose importante. Et alors, quand vous voyez qu'on perd beaucoup à cause du tabac, de l'alcool et de la nourriture, eh bien, on peut revenir sur toutes les émissions de cette semaine, hein, en se disant, mais oui, il est quand même temps hein, qu'on se prenne en main pour plein de choses. Pour plein de choses. Et donc, libérons-nous de nos contraintes.
Délivrons-nous, oui, c'est délivrons-nous. Ça. Délivrons, délivrons.
Libérons.
Ça fait presque Luberon. Hein. Je suis déjà partie, moi. J'ai déjà ma valise.
Ah, une petite côte de Luberon, mais non, c'est pas...
Je préfère Luberon à Libérons. Et bon, voilà. C'est juste pour la petite touche finale, hein, puisqu'on parle de bonne santé. Et ben voilà. Il fallait que ça sorte aussi. Ben merci. Merci, docteur. Hein. Je l'ai trouvé très parlant toute cette semaine. Hein.
Oui, j'avais la chat.
J'ai des choses à vous dire et je vais vous le prouver. C'est vraiment ça. Merci beaucoup. Répit, repos ce week-end pour vous. Enfin, en tout cas, au niveau des émissions, hein, parce que vous avez votre travail de médecin généraliste.
Oui.
Et lundi, on reprend une nouvelle semaine. Hein. On va faire ça comme ça. Hein.
Pas de problème.
Ça va ?
À lundi.
À lundi. Bon après-midi à l'écoute de Viva. Il est 14h. Et c'est Hélène Remy qui nous présente ce flash.
Bonjour à tous. Les travailleurs de l'imprimerie Helio près de Charleroi vont occuper l'entreprise. C'est ce qu'annonce la CSC, le syndicat chrétien. Ce matin, la direction a annoncé son intention de déposer le bilan. Les 180 travailleurs craignent donc de ne pas être payés ce mois-ci. En occupant l'usine, ils veulent mettre la pression sur la direction pour qu'elle paye bien leur salaire. Le réacteur 2 de Doul peut redémarrer. L'Agence fédérale de contrôle nucléaire a donné son feu vert. Il était à l'arrêt depuis 9 mois, depuis la découverte d'une légère fuite dans l'un des circuits d'eau de refroidissement. Une crèche près de chez vous, en un seul clic, l'Office de la naissance et de l'enfance a présenté un nouveau site à destination des futurs parents. Il permet de connaître les milieux d'accueil les plus proches, leurs tarifs ou encore les horaires d'ouverture. Les crèches ou accueillantes peuvent aussi préciser si elles sont complètes et à partir de quand des places seront disponibles. Le site my.one.be. Je veux que vous paniquiez. C'est l'une des phrases lancées par la jeune Greta au grand patron et responsable politique du monde entier réunis à Davos. Pour elle, seule la peur les fera bouger en faveur du climat. À 16 ans à peine, l'adolescente est devenue l'un des visages de la lutte contre le réchauffement climatique. Cette jeune Suédoise a décidé de faire l'école buissonnière tous les vendredis pour protester devant le Parlement de Stockholm. Elle a inspiré de nombreux élèves, en Belgique notamment. Ils étaient plus de 35 000 hier à limiter et à rater les cours pour réclamer une meilleure planète. Thierry Neuville prend les commandes du rallye de Monte Carlo. Le Belge est en tête après les deux spéciales de ce matin. Il a 3 secondes et demie d'avance sur le Français Sébastien Auger et 16 secondes sur l'Estonien Ott Tänak. Il reste 3 spéciales à disputer cet après-midi. Monte Carlo est la première manche du championnat du monde des rallyes. La météo avec le retour de la pluie cet après-midi, voire même de quelques chutes de neige au sud du Sillon Sambre-et-Meuse. Il fait un peu moins froid, de moins 1 à 8 degrés. Et le week-end s'annonce tout aussi gris. Amandine Aymar, c'est assez calme sur nos routes à 14h02.
Effectivement, juste quelques ralentissements par-ci par-là à vous signaler. C'est le cas sur le 42 Mons-Namur à hauteur de la Louvière, parce qu'apparemment il y a des travaux là-bas. Et donc vous êtes ralenti sur 2,5 km, comptez 10 minutes en plus en direction de Namur. Sur le ring de Bruxelles, ça ralentit aussi pour rejoindre le salon de l'auto. En circulation extérieure, vous êtes ralenti de Strombeek à Jette. Vous perdez moins de 10 minutes à présent. Moins de 10 minutes perdues également en circulation intérieure entre Grand-Bigard et Zélic. Et puis ailleurs sur ce ring en extérieur, extérieur. Vous êtes ralenti également entre Woluwe et Saint-Etienne et Diegem vers Grimbergen. Là, vous perdez quelques minutes. Et puis, prudence ce soir et cette fin d'après-midi même, puisqu'on nous signale des averses de neige qui se transformeront progressivement en pluie, qui pourraient devenir verglaçantes, principalement au sud du Sion sans Brémeuse. Donc, la prudence sera vraiment de mise sur les routes en cette fin de journée.
Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400.
Et jusqu'à 14h30, on apprend à devenir son propre coach.
Absolument, il y a du boulot, hein. Ça se fait pas comme ça en un coup de baguette magique. Donc on continue à développer un petit peu les outils qui vont nous le permettre. Merci Hélène, le prochain flash c'est à 15h.
Jusqu'à 14h30 sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré.
Avec Marie-Pierre Prudhomme, elle est coach humaniste globale, elle est formatrice. On a déjà répondu à pas mal de questions. Et si vous deveniez votre propre coach, qu'est-ce que ça veut dire? Devenir coach de sa propre vie, elle y a répondu Marie-Pierre. Peut-on vraiment se coacher seul? Elle a dit oui. Oui, on peut, mais en mettant bien sûr des choses en place. Comment on en arrive à pouvoir se coacher seul? On a répondu aussi à la question. La question à laquelle on n'a pas répondu, c'est les risques. Quels sont est-ce qu'il y a des risques de devenir son propre coach?
Oui, si c'est devenir son propre coach, sans amorce, que ce soit en accompagnement ou en formation, il y a quand même quelques risques. Le premier risque, c'est de se fourvoyer au niveau de l'objectif. Et par exemple, quelqu'un qui se dirait, ben moi, mon objectif, c'est une villa à quatre façades, deux enfants, labrador, X milliers d'euros par mois, mon appartement dans le sud. Et donc, la personne se met en tête des objectifs qui sont précis, mais qui malheureusement sont peut-être beaucoup trop précis. Mmh. Et en fait, il peut y avoir vraiment une confusion entre un moyen d'atteindre un état et l'objectif en lui-même. Peut-être que si on grattait dans une séance de coaching ou en formation de coaching, on découvrirait que cette personne recherche une certaine stabilité de vie sentimentale, une certaine confiance aux autres ou un certain bien-être, et elle se met des critères pour ça, bien spécifiques. Et donc, il peut y avoir une confusion entre un objectif et les différentes façons de l'atteindre. Mmh. Et donc, dans un travail en coaching, et ça, je reviens à la méthode POSA, on va travailler justement sur l'objectif pour le creuser, pour voir les valeurs qui sont derrière cet objectif. Et à partir du moment où on va débusquer les valeurs qui sont derrière, ça peut être la confiance, la santé, la famille, quand on met le doigt sur les vraies valeurs, alors ça ouvre à différentes possibilités et on réalise qu'il y a plusieurs façons d'arriver à ça, d'arriver à concrétiser ces valeurs-là. Et donc, un des pièges, quand on travaille seul, c'est d'un peu confondre un moyen d'atteindre la concrétisation d'une certaine valeur. Et au final, ce qui va se passer, c'est que, OK, on va mettre tout ce qu'il faut en place pour avoir sa villa quatre façades, son labrador, ses deux enfants. Et puis, on ne sera pas heureux. On va dire, mais pourtant, j'ai atteint mon objectif. Oui. Mais c'est parce que ce n'est pas ton vrai objectif. Et donc, il y a besoin de creuser davantage pour aller chercher l'objectif qui est en dessous, comme quelqu'un qui dirait « comment je fais pour ne plus me réveiller pendant la nuit ?» Mais ce n'est pas un vrai objectif. Si on creuse un petit peu, on va voir par exemple que la personne vient avec ça parce que ce qu'il y a derrière, c'est la peur de ne pas être à la hauteur avec ses enfants. Mmh. Et donc, en creusant à deux ou en formation, eh bien, on va pouvoir débusquer le réel objectif ou les réels objectifs. Voilà. Et ça se fait avec des outils. Mais des outils, il faut bien les acquérir
bien
à un moment donné.
Mais vous êtes une vraie traductrice, alors. Une traductrice humaniste.
Voilà.
Vous savez très bien. Enfin, vous essayez de savoir un petit peu les raisons pour lesquelles on dort mal ou.
Oui, si quelqu'un vient, pourquoi avec cette question, je veux ne plus me réveiller pendant la nuit, ce qui en soi n'est déjà pas un objectif puisque c'est quelque chose qu'on veut quitter. Ouais. Mais c'est de savoir ce qu'il y a derrière.
Ben oui.
C'est quoi l'enjeu?
Bien sûr. J'aime bien aussi la villa quatre façades avec le labrador et les deux parce que je comprends parfaitement ce que vous dites. Non, mais c'est important.
Oui.
C'est super important. Derrière ça, et vous avez raison, il y a des personnes qui ont l'impression d'avoir atteint un objectif,
voilà,
financier, confortable, matériel, voilà, amoureux même, et qui sont pas bien,
voilà,
qui sont pas heureux, parce que ça touche autre chose, quoi. Leur objectif vraiment à l'intérieur d'eux, c'est pas ça.
Ce n'est pas autre chose.
Et c'est difficile parfois,
voilà,
d'en être conscient.
Voilà, l'importance, ouais, du travail sur les valeurs,
tout à fait,
d'aller
tout
chercher
à fait
les valeurs qui sont
bien sûr
propres et importantes pour la personne.
Ouais, ouais, les valeurs. Votre formation, elle se fait à Liège, c'est à Liège, de
toute
façon.
Oui, en région liégeoise.
Et ça se fait à raison de combien de
Donc
temps?
Donc c'est une fois par semaine, et ça s'étale sur 12 journées, où on va vraiment acquérir les outils de façon théorique et puis de façon pratique. Donc on va les vivre chaque fois en binôme, et moi je supervise chaque groupe, et on décode ce qui s'est joué pour ajuster. Et puis alors il y a d'autres outils qui sont amenés en fonction de ce que les personnes amènent comme difficulté ou comme vécu des techniques.
Très bien, formation de coaching, donc on va dire pour privé et professionnel.
Exactement.
Hein, encore une fois, c'est pour une démarche personnelle ou une démarche professionnelle, des personnes qui avec ces outils-là, vont pouvoir entreprendre un état de coach, voilà, devenir coach.
Coach attitude.
Coach humaniste global, c'est votre formation, encore une fois. Donc, on a le P de posture.
Voilà.
On a le O d'objectif, on a le A de attitude, il reste le S, système.
Oui, ça c'est un point vraiment hyper important, c'est que dans toute démarche de développement personnel, l'importance de prendre en considération les systèmes auxquels on appartient. Mmh. Le système familial, le système professionnel, toutes les différentes sphères, en fait, auxquelles on appartient sont des systèmes, et un changement d'un des éléments, d'un des individus appartenant au système va impacter tout le système. Et donc ça, c'est vraiment à prendre en considération, et donc on va s'intéresser aux caractéristiques du système, puisqu'il y a des caractéristiques qui sont communes à tout système, que ce soit un système biologique ou un système interpersonnel. Mmh. Dans tous les systèmes, il y a des caractéristiques communes, dont par exemple une qui est l'inertie. Et donc, un système, il aura toujours tendance à se maintenir en son état. Mmh. Ça veut dire qu'une personne qui veut travailler sur elle et qui veut amener un changement, étrangement, le système va avoir tendance à la maintenir dans son état initial, pour ne pas lui bouger. Et donc, en coaching humaniste global, on va travailler sur le système, et lorsqu'il y a une définition d'objectif, bien comprendre les impacts directs et indirects que ça va avoir et prendre ça en considération.
C'est intéressant ce que vous dites. Le mot inertie, je pense en effet que ça touche beaucoup de monde.
Oui.
Des gens qui n'osent pas changer, des gens qui n'osent pas aller vers l'inconnu, c'est ça.
Mm-hmm.
Et c'est comme vous dites, c'est quelque chose qui est là en nous. C'est comme si en effet notre état physique et mental, on va dire, avait besoin de se raccrocher à ce qu'il connaît, et pas oser aller vers l'inconnu, vers j'ai changement de vie. Enfin, c'est ça.
Oui.
C'est ce qui empêche les changements de vie, les transitions, tout ça est vécu difficilement, quoi.
Oui. Et dans n'importe quelle définition d'objectif, que soit libérer du tabac, par exemple, eh bien, on se rend compte que ça va modifier énormément de choses dans les interactions familiales, et que même si le reste de la famille prône et clame haut et fort, on veut vraiment que tu arrêtes de fumer, eh bien, au final, on voit qu'il y a des pièges, on va dire inconscients, qui sont tendus pour que la personne conserve sa consommation et son statut, sa place de fumeur, qui permet beaucoup de choses aux autres. Et donc là, on revient à la notion de posture, comment je suis dans ma posture par rapport à l'autre. Et chaque fois, on va graviter avec ce questionnement posture, objectif, système, attitude. Et on va ajuster pour arriver à définir des objectifs qui soient tout à fait correspondants à la personne, ou vivre des transitions de vie.
Bien, ça me paraît tout clair. Donc si ça l'est pour moi, ça doit l'être pour eux.
Magnifique.
J'espère, pour mes auditeurs que j'ai eu encore une fois. Je suis en train de repenser à la soirée d'hier. J'ai eu l'occasion de rencontrer hier, c'était le Café de la Vie du Bon Côté à Florennes. Nous avons parlé du pouvoir des pierres et des cristaux. C'était un magnifique moment. Voilà. On l'a fini tard, mais c'était pour la bonne cause. On était tellement, tellement contents de se voir, et c'était complet, complet. Donc c'est vraiment bien. Et ça me fait plaisir de voir que ces auditeurs aime les sujets que je propose et les experts que je rencontre. Et vous en faites partie, parce que vous venez quand même depuis pas mal de temps, Marie-Pierre, et je pense qu'en effet, vous avez ce langage concret. On a envie de demander aujourd'hui à nos auditeurs s'ils ont essayer à un moment donné de se défaire de leur thérapie. Quand je dis thérapie, c'est accompagnement. Ça veut dire, est-ce qu'ils ont eu un début d'accompagnement? Est-ce que vous avez eu un début d'accompagnement et qu'à un moment donné, votre thérapeute, la personne qui vous suivait, vous a dit maintenant, tu peux y aller seul. Je pense que tu es capable. Est-ce que vous avez, grâce à des outils que vous avez appris, vous avez mis en place votre attitude coaching, voilà, de vous coacher par vous-même et d'essayer de mettre en place tout ce que vous aviez appris. 070 23 33 23. SMS 3063. Est-ce que vous l'avez fait par vous-même? Est-ce que ça a fonctionné ou pas? Pouvez-vous nous dire que c'est difficile aussi? Vivacité. I'll be trying, c'est Grand Georges sur Vivacité, devenir son propre coach. Encore une fois, c'est vraiment acquérir des outils, c'est ça la définition. Et si vous deveniez votre propre coach, c'est acquérir des outils et placer ces outils au centre de votre démarche personnelle, avec votre réalité de vie, en considérant votre subjectivité, la façon dont vous percevez, dont vous ressentez la vie. Nous évoquons les outils du coaching humaniste global. C'est une formation qu'elle propose, Marie-Pierre Preud'homme à Liège, et je viens de mettre en ligne son site internet qui vous en apprendra plus sur ces techniques, voilà, et ça va bien au-delà de techniques de conditionnement et de comment vous allez pouvoir permettre de définir vos objectifs. Tiens, voilà, j'aimerais bien qu'on revienne à ce mot objectif. Comment se définir, Marie-Pierre, et ça va intéresser beaucoup de personnes, de bons objectifs?
Alors, il y a plusieurs critères. J'ai évoqué le fait qu'il soit en concordance et qu'en fait, il concrétise des valeurs qui sont importantes pour la personne.
Oui.
Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est de se dire qu'un objectif, c'est comme une cible. C'est quelque chose c'est une chose vers laquelle on va. Ce n'est pas s'éloigner d'eux. Arrêter de fumer, par exemple, si c'est s'éloigner des dangers du tabac ou s'éloigner de la crainte d'une maladie, ce n'est pas un objectif en soi. Et donc, dans le s'éloigner d'eux, ça peut être le starter parce que il y a une peur. J'ai peur d'avoir un cancer des poumons, j'ai peur d'avoir telle maladie, j'ai peur de perdre mon souffle. Ça va être un départ, ça va donner une énergie de départ, mais malheureusement, ça va pas se maintenir sur la durée parce que la personne n'est pas focalisée sur aller vers. Et donc, ce qui est important, c'est de se formuler un objectif en termes de ce qu'on va gagner. Donc, je me libère de la cigarette, je vais pouvoir gagner de l'argent, jouer avec mes enfants, je vais pouvoir aller courir, je vais gagner des choses. Donc, toujours se formuler un objectif en termes de aller vers. Se formuler des objectifs aussi qui soient à la fois réalistes et réalisables et penser aux différentes étapes pour y arriver, ce qui veut dire qu'il y aura toujours un premier petit pas concret. Et ça, c'est pas que je sois obsessionnelle, Sylvie, mais l'idée, c'est vraiment de se mettre en mouvement. Poser des actes concrets et une fois qu'on est engagé dans l'action, ça va donner de la satisfaction de soi, de la confiance et puis on va continuer à aller vers son objectif. Alors un bon objectif pour moi aussi, eh bien, il est révisable. Toujours dans l'idée de se dire, moi j'ai une croyance, Sylvie, qui est que ce n'est pas une bonne croyance que de se dire qu'il faut toujours terminer ce qu'on a commencé.
Je suis d'accord.
Oui, vous adhérez à ça.
J'adhère, oui, oui, oui.
Parce que je pense que si on est persuadé qu'on doit terminer ce qu'on a commencé, ça peut vraiment empêcher de faire un tas de choses qui nous correspondent davantage. Et donc, c'est cette introspection et aussi, comme disait Raymond, cette humilité.
Oui.
L'humilité qui va dire, ton objectif, il n'est pas réaliste ou il ne te correspond pas. Alors, revois-le. Donc, pour moi, un objectif, il est révisable et toujours, on va aller recreuser au fait à quoi est-ce que je veux accéder quand je vise ça, à quoi est-ce que je veux accéder. Et donc, on va ouvrir à d'autres moyens. Voilà, en gros, quelques critères pour bien poser un objectif.
Je trouve que le mot révisable... accorder ce mot-là
oui.
avec objectif. Je trouve que en effet, c'est il y a tellement de gens qui se mettent la barre tellement haut.
Et oui.
Parce qu'ils sont dans un objectif et qui peuvent pas faire autrement parce que c'est dans leur croyance.
Oui, voilà.
Hein, je me suis engagée à ça, donc je peux pas revenir en arrière.
Voilà.
qui a dit ?
Ça fait beaucoup de dégâts. Voilà, qui
qu'on ne peut pas revenir en arrière. C'est quoi cette croyance ? Oui. Mais c'est super difficile. Hein. C'est parce qu'on a été. C'est comme si c'était un truc marqué au fer rouge. Hein.
Tout à fait.
Je me suis engagée, c'est comme ça.
Voilà, de ne pas.
C'est pas pareil avec une promesse. Hein. Je n'ai pas dit ça. Hein.
Non,
attention,
c'est
hein.
pas ça.
C'est pas pareil.
Persévérance et obstination, ouais. c'est pas la même chose. Hein.
Tout à fait. Tout ouais. à fait. Objectif et promesse, c'est pas pareil non plus. Très bien. Moi, j'aime bien ces mots-là. Objectif révisable. J'aime bien le mot révisable. 070 23 33 23 SMS 30 63 si vous souhaitez intervenir sur un début d'accompagnement que vous avez fait avec quelqu'un et puis ensuite vous avez eu les outils qu'il vous fallait, ça veut dire aussi que vous avez peut-être testé plusieurs méthodes et c'est possible aussi et c'est peut-être pas la première qui va vous réussir et à un moment donné vous sentiez que c'était ces outils-là que vous deviez avoir pour cheminer personnellement et vous y êtes arrivé et vous êtes en chemin, vous voulez nous dire que vous le faites en ce moment, c'est ça qui est bien. 30 63 50 centimes par message envoyé.
13h-14h30, la vie du bon côté sur Vivacité.
Marie-Pierre Preud'homme, qui est coach humaniste globale et formatrice, elle est aussi hypnothérapeute, il faut le dire, parce que tout à l'heure vous parliez d'arrêter de fumer, c'est l'hypnose fait quand même beaucoup de bonnes choses.
Tout à fait,
dans
ça
le
fait
domaine.
Partie des outils.
Ouais, oui, ouais, ce sont des outils aussi. Et si vous deveniez votre propre coach, c'est vraiment la question qu'on vous pose depuis tout à l'heure, en vous expliquant que devenir son propre coach, c'est acquérir des outils qui comprennent une attitude permettant de poser les bons choix, définir de bons objectifs, les atteindre dans le respect de soi des autres. Puisque vous accompagnez, c'est comme ça que vous avez cette envie aujourd'hui de partager personnellement et de faire partager personnellement tout cela à des personnes qui veulent faire pour elle-même et pas seulement devenir des coachs, quelles sont les difficultés pour des personnes quand elles ont les outils qu'elles doivent les mettre en pratique? Qu'est-ce
Alors,
qui est le plus difficile?
Pour moi, une des difficultés majeures, c'est l'idée de prendre vraiment de la distance par rapport à ce qu'on vit et le travail qui a trait aux croyances, c'est-à-dire à débusquer ce que sont nos propres croyances et nos propres convictions. Si je reprends la croyance que j'ai, moi, que des objectifs, c'est bien qu'ils soient révisables. Et donc, à l'inverse, les personnes qui sont persuadées que quand on commence quelque chose, on doit le terminer, ou la vie, il ne faut pas croire, c'est dur, on n'a rien sans effort, c'est de pouvoir détecter d'abord que ce sont des croyances et d'oser remettre ça en question. Donc ça, étrangement, ça peut-être l'air anodin, mais c'est pour moi la plus grande difficulté que je rencontre dans les accompagnements de coaching, débusquer les croyances et oser les remettre en question. Alors, un petit truc pour ça, ça pourrait être de se dire, tiens, on détecte par exemple cette fameuse croyance, il faut absolument terminer ce qu'on a commencé. Et puis, on réalise qu'en fait, ça bloque la personne, ça l'empêche d'aller vers de nouveaux projets. Mmh. À ce moment-là, la question à se poser, c'est qu'est-ce que je pourrais penser à la place ? Ou qu'est-ce que quelqu'un d'autre pourrait penser à la place ? Et si je pensais ça, ça me ferait agir comment ? Et par exemple, de se dire la croyance exactement inverse. Mmh. J'ai le droit de commencer quelque chose et de changer d'avis. Mmh. Alors on se répète ça et puis on se dit, ben, si je me dis ça, qu'est-ce que je fais demain de différent? Et ça peut vraiment décaler des situations, mais étrangement, ça peut être très difficile de faire cet exercice-là. Voilà. Mais...
Ouais, devenir son propre coach, c'est se répéter mentalement des phrases, de mettre
ça
des post-it aussi sur le frigo.
Évidemment, mais Monsieur Coué, oui. il avait déjà.
Oui, il avait tout compris.
Tout compris.
Oui, oui, oui. Mais c'est absolument ça. C'est absolument ça. Et quand on se le répète personnellement, c'est encore mieux, bien sûr.
Évidemment.
Mais les autres sont importants aussi, comme l'a dit Evelyne tout à l'heure.
Oui.
C'est quelqu'un qui lui a dit, mais enfin, avec tout ce que tu apprends, avec tout ce que tu. Comment ça se fait que tu n'es pas encore arrivé à te coacher personnellement? Elle s'est dit, mais oui, au fond. Mais parfois, c'est tellement pompeux de se dire ça, vous voyez. Il y a des personnes qui se disent, bah non, j'ai besoin, non, c'est pas mon métier, donc j'ai besoin de quelqu'un. Mais on parle pas de métier, on parle vraiment d'acquérir des outils, de les
acquérir
mettre en pratique.
Acquérir des outils, le professionnel est là pour ça.
Ben oui.
Pour moi, un bon coach, c'est un coach qui transfère les outils d'autonomie. On y va parce qu'on rencontre une difficulté de vie. Après, si on rencontre le même type de difficulté de vie, On devrait avoir les outils pour pouvoir se débrouiller seul.
Il y a le fameux triangle de Cartman, hein, j'avais noté tout à l'heure, mais c'est vrai que ça surprend toujours les gens, hein, d'apprendre ça. Ce fameux triangle victime-sauveur et le troisième, c'est persécuteur.
Voilà.
C'est ça. Ouais. De se dire... Enfin, on a difficile de s'entrevoir comme ça.
Évidemment, se dire qu'on se victimise,
et ça pourtant,
on est
toujours dans un des trois statuts, quoi.
L'objectif, c'est de sortir de ça et surtout de ne pas entretenir ce fameux.
Mais je suis sûre que ça surprend les gens quand vous en parlez.
Ça fait partie, de ce qui surprend, et surtout lors des exercices où on a parfois la désagréable surprise de constater qu'on entretient un triangle.
C'est clair. Tiens, ça me fait penser qu'on fera une émission la semaine prochaine. Je fais le lien parce que c'est important, entre personnes toxiques ou relations toxiques.
Voilà.
Ce sera vendredi. On parlera de ça avec Julie Arcoulin. Et je pense que on parle de plus en plus de relations toxiques en amour ou en amitié, de stratégies aussi pour les éviter. Mais comment savoir si on a affaire à une personne toxique ou si on est dans une relation toxique? C'est tout à fait différent. Bon, ben, on va se dire au revoir.
Un grand merci.
Merci beaucoup de nous avoir fait avancer par rapport à ça. Toutes les informations sur cette formation sont en ligne sur la page Facebook. Passez un très bon week-end et aller-retour, c'est maintenant.
Tout vivacité à la demande est sur rtbf.be/ovio. RTBF Ovio, libérez vos envies.